Cambridge Assessment International Education. Pre-U French Principal Course 9779, Paper 2, 2022. Part 2. Listening. Texte à écouter 1. Interview avec Eliette Abekassi, écrivaine.
Votre nouveau livre analyse l'influence de la technologie dans la vie moderne. Pourquoi l'avez-vous écrit ?
Je trouve qu'on vide nos vies de sens. Nous n'avons plus vraiment de guide. Nos repères moraux, spirituels, culturels sont obsolètes. Dans cette hyper-modernité, nous nous sommes perdus. Nous avons modelé nos vies sur ces technologies sans trop nous poser de questions et n'imaginons plus vivre sans elles. Nous voilà dans une forme de servitude heureuse. Nous assistons à une révolution à la fois des mœurs, des comportements et du quotidien. Particulièrement ma génération, qui, née sans portable, est aujourd'hui incapable de s'en passer. Pour échapper aux pressions et trouver un peu de sérénité, de conscience de soi, et même, pourquoi pas, éprouver l'ennui, je préconise un jour par semaine sans technologie.
L'époque que vous décrivez semble désespérante pour la condition humaine.
Il faut retrouver l'envie de croire en soi. Ce but exige de réintroduire du sacré dans sa vie. Ce peut être des moments sacrés, le repas par exemple. Lorsque l'on est à table, on pose le regard sur l'autre, pas sur son portable. Avec mes enfants, j'ai instauré un jour sans portable. On retrouve nos vies, nos conversations à bâtons rompus, les longs déjeuners en famille. On lit. C'est un repos pour l'esprit qui apporte beaucoup de paix. Les enfants sont aussi soulagés, même s'ils le vivent un peu comme une contrainte. Cette déconnexion, c'est le moment de rompre avec le monde économique, actif, technologique. Il nous faut cet espace hors du temps, comme la méditation, où l'on ne pense plus à la question « Comment vais-je gagner ma vie ?» C'est cela que j'appelle la spiritualité.
Texte à écouter 2. L'agriculteur repenti.
Christophe Piquet, vous regrettez les méthodes d'agriculture intensive. Racontez-nous pourquoi.
Nous, agriculteurs, nous avons dilapidé tout ce que nos ancêtres nous avaient préparé, en utilisant des pesticides, par exemple. Mais cela ne nous a pas suffi. Nous avons pillé les générations futures. Comment peut-on se sentir bien dans sa peau après ça? En tant qu'agriculteur, j'ai toujours été coupé en deux. Je n'avais pas la conscience tranquille entre le fait de produire toujours plus et mal, et mon aspiration profonde à respecter la planète. On n'était plus des agriculteurs, mais des gestionnaires. Ce qui comptait pour moi, c'était le chiffre de revenus. Mes vaches ne voyaient jamais le jour. Elles ne savaient pas ce qu'était de l'herbe non plus. Elles mangeaient des céréales.
Qu'est-ce qui a provoqué ce changement chez vous ?
La naissance de mes premiers petits-enfants, c'était le déclic. De quoi ont besoin les enfants ? De respirer un air pur. D'eau propre. On n'a pas le droit de leur donner n'importe quoi à manger. J'ai donc converti mon exploitation à l'agriculture biologique. C'est une deuxième chance dans ma vie d'agriculteur. On a planté des arbres, 1 000 000 au total, dans une des parcelles de mon exploitation. Il faudra attendre 20 à 30 ans pour en ressentir les effets bénéfiques. Vous ne plantez pas un arbre pour vous, mais pour le bien commun. L'arbre joue un véritable rôle de régulateur pour l'environnement. Il permet de limiter les dégâts liés aux inondations et de développer toute une biodiversité d'insectes et d'oiseaux. Il doit être reconnu comme un élément productif dans l'agriculture. Voilà pourquoi je suis un agriculteur repenti.
Texte à écouter 3. Recherche famille d'accueil pour délinquants.
Des centaines de jeunes délinquants sont placés chaque année par la protection judiciaire de la jeunesse, PJJ, chez des bénévoles. Muriel Aiglin, magistrate, nous explique ce dont la PJJ a besoin.
On lance cette année une nouvelle campagne de recrutement de familles d'accueil. Nous avons un manque cruel dans les zones rurales peu peuplées, comme la Franche-Comté par exemple. En revanche, nous pouvons compter sur un réseau actif dans le Nord et dans la région de Marseille, où il y a une ancienne tradition d'accueil. Sachez que la région parisienne seule totalise 30% des familles d'accueil. Nous avons des familles qui nous accompagnent sur le long terme, mais aussi beaucoup qui ne sont candidates que pour quelques mois parfois. Il faut donc pouvoir compter sur une liste de familles qui se renouvellent régulièrement. Ces familles présentent une grande diversité sociologique. Il peut s'agir de retraités ou d'actifs ayant souvent des enfants déjà grands. Tous évoquent leur désir d'engagement et nombre d'entre eux sont eux-mêmes d'anciens jeunes en difficulté. Leur mission est avant tout de redonner à ces jeunes délinquants un cadre éducatif clair, alors que ces mineurs n'ont plus de rythme, plus d'horaire, ne savent pas se tenir à table ou s'adresser aux autres correctement. Majoritairement, ce sont des adolescents entre 16 et 18 ans. Certains supportent mal l'accueil collectif en foyer, d'autres parce qu'ils sont en fin de placement, par exemple dans un centre éducatif fermé, et qu'il s'agit de les accompagner vers l'accession à l'autonomie.
Merci, Muriel Aiglin.
This is the end of the recorded material.